Vous écoutez France Culture.
Ce soir, l'atelier de création radiophonique propose une émission à double entrée, une face A tout d'abord, avec Foudroyé, un documentaire de Manuela Morgan, une face B avec un nouveau portrait, le 21e, dans notre série S'entretenir. Cinq Foudroyé raconte à partir d'une écriture de la remémoration, cet événement qui a marqué leur vie à jamais. Un chasseur d'éclairs, Bâle, traverse leur récit à la vitesse de la lumière.
La création.
Tempo.
Atelier de création radiophonique. Foudroyé. Un essai radiophonique de Manuela Morgan.
Foudroyé est le fruit d'une enquête de 5 ans sur les terrains de la foudre. Comment raconter le foudroiement quand il est avant tout un phénomène qui laisse sans voix ? Pendant 2 ans, j'ai eu accès aux dossiers médicaux des grands brûlés. Parmi des centaines de dossiers, j'ai retrouvé la trace d'une dizaine de survivants foudroyés que j'ai contactés par l'intermédiaire du docteur Elisabeth Gourbière, une des rares chéronopathologistes spécialistes des pathologies de la foudre. Elle est aujourd'hui décédée. D'elle, j'ai appris beaucoup sur la nature de la foudre et les séquelles physiques et psychiques laissées par ses coups. Sur les 15 foudroyés rencontrés à plusieurs reprises, 5 d'entre eux ont été consentants. Leur vie a été entièrement bouleversée. Pour la plupart, le foudroiement a laissé un profond handicap. En parler malgré eux tout le temps, ou ne jamais arriver à en parler, est leur destin. En eux, la foudre ressasse. Une sensation est commune à tous. L'impact simultané de la terreur et de la magie. Horreur et beauté, brûlures ou sensations d'orgasme sont imbriquées. Perte de connaissance, coma, rêve éveillé, cauchemar, amnésie, aphasie, fin du monde, renaissance et clairvoyance, catastrophe et miracle, surréalité, terrible et fabuleux fracas, tout cela ensemble est ressenti en un instant par le foudroyé. Pour la plupart, ils n'ont plus parlé plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs mois. Les mots, le récit pour tous est l'unique secours dans l'après-coup. Alex Herman, le chasseur d'éclairs, je l'ai rencontré en 2005 et il m'a semblé être face à un nouveau Merlin ou une sorte de conquérant du monde magique. Il se déplace à l'allure de la foudre. Toujours en voiture, il roule et chasse. Avec lui, son matériel de chasse d'éclairs, appareils photo et caméra. Il engendre le monde magique avec la foudre qu'il poursuit. Il est aussi la voix de la foudre, la voix scientifique qui est là pour nous apprendre sa matière, ses impacts, sa course, sa nature profonde et ses dangers. Ces mots sont les mots que j'ai retranscrits à partir de nos échanges de vive voix ou de nos longues correspondances à distance sur plusieurs années. Un autre chasseur d'éclairs rencontré en chemin raconte aussi la passion des traques. La foudre est un sujet brûlant au propre et au figuré, qui impose à la fois son impudeur spectaculaire quand elle explose et déchire le ciel, et la pudeur face à ses victimes, dont le drame est véritablement bouleversant. Le zigzag, signe même de l'éclair, est la forme choisie pour aller et venir entre l'exposition extrême de ceux qui tuent et la retenue nécessaire face à ceux qui rejouent leur histoire de survivants.
Je suis Baal, le chasseur d'éclairs. J'habite le Massif central, le Midi, la région PACA, le Pays basque, les Pyrénées, l'Isère, le Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, la région Rhône-Alpes, l'Aquitaine. J'habite partout où vient l'orage. Je vis sous la pluie. Je suis l'automne. Je roule à la vitesse de l'éclair. J'étais un dieu à Palmyre en Syrie il y a des milliers d'années, au temps de Néandertal. Là-bas, j'avais mon temple. On me vénérait, dieu de l'orage. J'étais souvent assis sur un taureau. J'avais un trident dans une main et un éclair dans l'autre. Aujourd'hui, je roule en Renault 21 et j'ai une caméra vidéo et un Nikon FM2. Quand je ne chasse pas, quand ce n'est pas la saison des orages, je suis DJ dans une boîte de nuit à Paris. Là-bas, on m'appelle DJ Baal. Je suis le Fada. Le Fada, c'est pas le fou, c'est celui qui a vu les fées. Je parle par hallucination. J'appartiens au monde magique. En allant à la foudre, je cherche à atteindre ce que j'appelle l'état cristallin. C'est un état que j'atteins lorsque je m'endors au volant. Je me trouve alors plongé dans un monde totalement subjectif et onirique tout en conduisant. Somnambule, j'ai alors une série de visions. Je m'endors légèrement, je résiste, ce qui produit une vague de déformation visuelle, particulièrement au niveau des arbres, éclairés par les phares. Je me sens tout à coup extrêmement lucide. Les sacs plastiques sur la route deviennent des mutilés, pleins de bandages, des mutilés de guerre, c'est un exemple. Vous verrez de vos propres yeux, la foudre dessine comme une déesse. Je suis un rêveur lucide, vivant dans une autre réalité. Saisir la foudre, c'était un rêve d'enfant. Mes premières hallucinations sous l'orage remontent à l'âge de 7 ans. J'ai vu alors des silhouettes bleues, fines, gracieuse, qui apparaissait sous une ligne à haute tension passant au-dessus de ma maison. J'ai mis très tôt les doigts dans une prise de courant pour prendre des décharges. Cette manie survint après un rêve dans lequel je voyais Saturne. Vers 11-12 ans, je marchais sous les éclairs dans la garrigue marseillaise. Assoiffé, j'ai eu des visions de formes blanches. En Orient, on les appelle les djinns. Je suis le Fada, l'ami des fées et des djinns. J'ai la science exacte de la foudre. On me consulte. De la foudre, je connais tous les secrets. Sur elle, j'ai tant écrit et tant parlé. Je lui ai fait un musée. Je lui parle comme à une femme. Je la torée comme une bête. Je la sens venir et je la traque. Je la prends en photo et en film. Ça fait 20 ans que je ne dors pas pour la suivre et la révéler, en capturant et en fixant ses traces. Pour elle, chaque fois, je risque ma vie. À elle, je me surexpose. Elle m'a foudroyé plusieurs fois au bras, au pouce, un peu partout. Un chasseur d'éclairs n'est jamais indemne. Je vis un autre temps. Ma montre ne s'arrête jamais. Les aiguilles de mon temps sont les jambes de l'éternité qui fait la roue. À toute heure, c'est l'heure de Baal. Je vous raconterai les corps brûlants et mortels de la foudre.
Il faut savoir qu'il y a entre 1,5 million et 2 millions d'impacts de foudre par an en France. Donc la foudre tombe n'importe où, n'importe quand et n'importe comment.
Tout récemment, une femme de 54 ans qui a commis l'erreur de s'abriter sous un arbre, un homme de 45 ans qui lui travaillait ses salades dans son jardin avec une fourche. Des gens foudroyés en France, il y en a une centaine à peu près tous les ans. 10% meurent, 70% conservent des séquelles qui sont parfois très graves, des troubles neurologiques, des troubles de rythme cardiaque, une perforation des tympans parfois, des douleurs permanentes dans les membres qui ont été traversées par un courant d'une si forte intensité, des pertes de mémoire, de concentration et puis surtout une peur phobique désormais de l'orage.
Orage dans le sud du pays, chaleur et soleil dans le nord.
Sur le lac d'Éparon de Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence, un jeune homme qui faisait de la planche à voile a été foudroyé.
En Seine-Saint-Denis, à Romainville, un adolescent de 15 ans a été foudroyé lors d'un violent orage. Deux autres jeunes gens, également frappés par la foudre, ont dû être hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger.
La foudre a tué hier en plein cœur de Paris un accident.
Ce qui s'est passé visiblement hier, c'est que la foudre a touché les grilles du jardin, les grilles métalliques. La victime se trouvait à une vingtaine de mètres de là et elle a été touchée par ricochet. Le jeune homme avait les pieds dans l'eau, fatalement, il pleuvait. Cet homme, en tout cas, est mort sur le coup d'un arrêt cardiaque.
La foudre a encore tué en montagne un adolescent pris par un orage hier.
La foudre est tombée hier à plusieurs reprises sur les Alpes. Un homme a été tué, foudroyé, alors qu'il faisait une randonnée à 2000 mètres.
Alors si vous voulez, pour les effets d'impact direct, en général, il faut éviter de se trouver sur des extrémités qui sont comme les sommets de pics, les crêtes, toutes les proéminences isolées.
Le front d'orage est une fissure entre les mondes, une limite entre la plage et la vague. C'est la porte de la sorcellerie, la possibilité de vivre des expériences hors normes, inexplicables, dans une frange de temps et d'espace très limitée. Quand la chance est passée, elle est passée. La foudre jaillit entre les courants ascendants et descendants, dans une zone de friction très agitée, entre deux forces opposées, ciel et terre, haut et bas, froid et chaud, sec et humide. Lorsque le rideau opaque de phénomènes orageux m'absorbe, je sais intuitivement que je suis à la merci totale de la grande mécanique, un phénomène dans les phénomènes. Pendant un temps, j'appartiens à l'orage, en tout cas sous le noyau dur. Lorsque l'absorption se réalise, le phénomène est comme une vague anesthésiante qui adoucit les sons et les lumières. Si je parviens à me mettre en résonance, tout devient feutré et presque agréable, enveloppé. Je me sens alors comme une femme soumise dans les bras d'un gros molosse protecteur mais dangereux. Il suffit d'un écart et le bras protecteur se resserre. Mon attente de l'inconnu à l'arrivée du front opaque est la même qu'avant un film au cinéma. Après, c'est trop tard, on est dedans. Là, juste avant, tout est possible. Qu'est-ce que j'attends? Un rendez-vous avec le diable? L'événement unique? La foudre en boule? Un foudroiement extrême? L'apparition d'une entité? Une chasse aux démons ou une voix de l'Olympe, peu importe, ma conscience se bloque sur l'instant magique de la fissure entre les mondes. Je suis dans la brèche et rien ne doit m'échapper. En évitant de se manifester à moi durant la prise de vue, l'éclair tente-t-il de cacher quelque chose d'intime ou de secret? Veut-il me protéger de ses effets dévastateurs en évitant la promiscuité? Si l'on examine l'éclair comme une sorte de phénomène éjaculatoire, existe-t-il pour la foudre ou dans ce qu'il a produit une forme de pudeur ou de crainte d'être observé? Pourquoi ce grand tintamarre dans l'orage? Tant de questions que je te pose à toi, foudre. Tant de questions que je m'en vais demander depuis des années et des années à toutes tes victimes. Celles que tu as touchées, les foudroyés que je rencontre tout le long de mon chemin. « Sami Afaf a été foudroyé en mer en août 1975 dans le Cap Bon, en Tunisie, entre Nabeul et Korba, alors qu'il faisait remorquer son voilier. Il avait 18 ans. Il était seul à bord. Personne ne s'est rendu compte de son foudroiement. Au retour, personne ne l'a cru. Il a reçu la foudre le long du bras qui tenait la barre. Aujourd'hui, il est médecin échographiste. Tout le jour, il sonde les corps avec le bras qui a reçu la foudre. Son bras a toujours la mémoire de l'ankylose.
Esmi Sami Afaf. Je m'appelle Sami Afaf. Ça se passe en août 1975, en mer, entre Nabeul et un village au nord qui s'appelle Korba, dans le Cap Bon, en Tunisie. C'est pas très loin de Tunis, à vol d'oiseau. À l'époque, je faisais de la voile. Ce jour-là, nous étions plusieurs voiliers. C'était des petits bateaux, des dériveurs. Suite à une avarie, je n'avais plus de voile. J'ai dû être remorqué par un autre dériveur. J'étais à la barre, métracté en quelque sorte. C'était la fin de l'été, dans l'après-midi, avec une météo incertaine. Entre Nabeul et Korba, c'est une côte assez pastèque, melon, derrière les rochers. C'est assez sec malgré tout, carrément sauvage. C'est tranquille. La veille, on avait pique-niqué. On avait piqué des pastèques dans les champs pour déjeuner. Je suis tracté, ça avance un peu comme un crabe. On avance face au vent. Moi, je suis seul dans le voilier. J'ai 18 ans, je suis peu expérimenté. Seul, pas vraiment maître de ma direction ni de mes décisions, puisque finalement c'est l'autre qui me tracte. Le ciel s'assombrit, comme c'est souvent le cas à cette période. Le vent forcit et finit par se calmer. Les éclairs au loin, le tonnerre, la pluie intense. C'était une situation qu'on évite d'affronter en mer. En plus, la route était encore longue. On était au début du trajet, encore 2 heures de navigation. Et puis, je me souviens d'un moment où la clarté s'est progressivement estompée pour laisser place à une sorte de pénombre, avec des grondements, puis un certain silence. Je crois qu'il n'y avait plus beaucoup de vent à ce moment-là. Et pour en venir à l'événement, si on peut l'appeler l'accident, je suis, comment dire, c'est assez fragmentaire. J'ai l'attention attirée par un bruit strident qui commence à habiter le bateau, de plus en plus aigu et brutalement, dans un fond de tonnerre, ma main se tétanise, mon bras. Je garde le souvenir que c'était le bras droit. Je suis interloqué. Je revois le bateau qui est devant moi. Essayer de leur dire qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais ils ne se rendent compte de rien. Et moi, je suis pétrifié. Ma main est sur la barre. Je suis là comme ça. Moi, je suis pétrifié. Ma main est sur la barre. Et je suis là, comme ça, avec ce bruit violent, assourdissant, un peu comme si on tendait une corde, qu'on faisait passer un archer sur un violon de manière très aiguë. Et les câbles du mât du bateau qui généraient ce bruit strident. Après, j'ai ressenti un grand éclat, ça a duré quelques secondes. La sensation, c'était une sorte d'anesthésie générale, une paralysie générale. Voilà. Voilà ce dont je me souviens. De grosses gouttes d'eau qui tombaient sur la mer. J'avais l'impression de vivre quelque chose de grave dont personne n'a eu conscience, puisque finalement, j'étais seul sur le bateau, remorqué. Je n'ai pas perdu connaissance, mais j'ai essayé d'appeler. La corde était assez longue, qui me séparait du voilier qui me tractait. J'essayais d'appeler, mais c'était surtout comme une lassitude profonde, une fin d'anesthésie, une fin d'amour, vidée, complètement vidé. Et la peur aussi, après, petit à petit. Alors cette sensation de vide, combien de temps elle a duré? Je ne sais pas, je ne peux plus le dire. En relatant cette scène, j'ai presque l'impression de ressentir encore une certaine ankylose dans le bras. On a toujours l'impression que la vie est faite de hasard. Mais c'est le bras avec lequel je travaille tous les jours. Le bras avec lequel je tiens la sonde d'échographie qui génère des ondes. Ces ondes, les ultrasons, ils sont faits à partir de décharges électriques, de petits éclairs dans les quartz. Pour revenir à ce jour où j'ai donc été foudroyé, j'ai vécu cet événement de manière tellement solitaire, alors que j'étais donc en mer accompagné d'amis qui étaient sur des voiliers non loin de moi et qui n'ont pas pu vivre la même expérience que moi. J'ai eu vraiment tout d'abord le sentiment d'être interloqué par ce qui m'arrivait, et ensuite c'était du domaine de l'indicible, puisque quand j'ai voulu avertir les gens de l'événement qui m'avait frappé, je ne pouvais même pas les interpeller, enfin ils ne m'entendaient pas, et ce silence de leur part me confrontait à la gravité de ce que j'ai vécu, et finalement je l'ai enfoui en moi d'une certaine manière, et j'ai peut-être voulu effacer cet événement maléfique en m'abstenant de communiquer auprès des autres, d'autant que j'étais à l'époque assez jeune, et en faire part à mes parents ou à mon entourage, ça aurait été avouer avoir pris des risques inconsidérés en mer. Et donc finalement j'ai pu, grâce au peu de conséquences que j'en ai subies, camoufler un petit peu la gravité de la chose. La sensation, toujours est-il, a démarré vraiment au niveau de l'extrémité du bras et a envahi petit à petit mon corps à partir de l'épaule. Et elle s'est suivie d'une sorte de relâchement à la fois physique et psychologique. Mais venu spontanément de comparer cette sensation effectivement à la sensation qu'on peut ressentir après l'amour.
Un éclair est une manifestation lumineuse plus ou moins forte qui se produit lorsqu'un court-circuit échauffe les gaz de l'air, peu conducteurs, à une très forte température et les rend incandescents. Au départ, apport de chaleur et d'humidité. Friction durable à lent crescendo appliqué d'une certaine manière. Mise sous tension exacerbée jusqu'au seuil de rupture, seuil au-delà duquel l'enveloppe ne peut plus contenir la pression produite par une certaine accumulation de matière subtile. Et finalement fracture, fissure, passage. Changement de dimension puis libération brutale de matière rare, précieuse, et pouvant engendrer une quantité de phénomènes subséquents de grande importance, sans oublier le déploiement considérable d'énergie. Foudre et sperme sont deux phénomènes identiques, qui s'expriment sous deux formes différentes. Richard Arbé a été foudroyé le 13 août 2000 dans sa station-service de La Cure. Il servait de l'essence. La foudre est entrée dans la pompe à essence. Il a été à la fois brûlé, choqué, émerveillé. Depuis, il raconte à chaque client son histoire. À chaque fois qu'il sert de l'essence, il revoit et revit la foudre.
Je m'appelle Richard Arbé. Je tiens avec ma famille l'hôtel-restaurant et la station-service La Cure, à la frontière suisse. C'est ici que Paul-Émile Victor appris à faire du ski. Voilà comment j'ai reçu la foudre. C'était le dimanche 13 août, environ 18 heures, je servais une voiture de passage et au même moment, il y a eu un éclair d'un coup de tonnerre très très violent qui est tombé entre la colonne d'essence et la voiture. C'est une flamme qui m'a effleuré sur le visage, tout le côté droit, une chaleur assez brûlante et de l'autre côté, il y a mon visage qui a été brûlé. Je suis resté un moment immobile, interdit, n'ayant plus de courant, plus de lumière. Ça m'avait tout retourné. Maintenant, je ressens encore des brûlures. J'entends moins bien. Quand je me suis baissé, la flamme était transformée en trois couleurs. Elle était bleue, est devenue blanche, puis jaune. Ce dimanche 13 août 2000,
c'est une bougie,
environ 18 heures, en faisant le plein d'essence,
la flamme est montée de passage. Au niveau du pneu.
Un éclair suivi d'un coup de tonnerre violent.
C'est une beauté.
Une flamme m'a effleuré le visage devant moi, en trois couleurs, du bleu, blanc, jaune.
Pedro, c'était un
oiseau magnifique. Et au moment de cet orage, il a été tellement effrayé, affolé, parce qu'il n'avait plus de courant, plus de chauffage. Puis en voyant ces courants vagabonds qui tournaient autour, c'est sûr, il criait de peur. Mais il a plus peur que moi, les animaux ressentent encore plus que l'être humain. J'ai fait 40 ans de station-service pour Shell. Et ce jour-là, ce dimanche 13 août, c'est sûr que j'ai eu énormément peur ce coup-là. J'étais brûlé du côté droit, mon bras droit. Après, ça a passé du côté gauche et c'est monté sur mon visage. Et ça m'a rendu sourd de cette oreille du côté gauche. J'étais vraiment émerveillé, et puis une beauté de voir cette flamme devant mes yeux, qui a fait aucun mal. C'est comme si c'était hier, c'était vraiment impressionnant, puis une beauté, parce que c'est rare de pouvoir la voir devant, à quelques centimètres devant mes yeux. C'est rare de pouvoir être sauvé, être protégé. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés autour de nous. J'étais vraiment touché par cette force de la nature. J'ai des séquelles. C'est à chaque orage en ce moment, je ressens une brûlure intérieure, surtout sur le côté gauche où elle m'a brûlé. Alors je ressens... Même 2-3 heures avant, je peux dire à mes clients ou à ma famille, il y a un orage qui va venir. Parce que ça ne dure pas longtemps, et quand l'orage est reparti, hop, ça disparaît, ma brûlure. Mais autrement, je reste très au calme, et surtout pas faire aucun mouvement. Mon cœur, il a subi tellement de brûlures à l'intérieur. Ça m'a beaucoup touché de voir que je suis encore là pour exprimer, dire, être prudent devant l'orage. C'est très dangereux.
Mon nom est Nicolas Gascard, ma passion c'est la foudre et les orages, c'en est venu mon métier suite à des années de terrain et de fascination pour ce phénomène, donc je suis photographe d'orages, je photographie les orages sur le centre, l'est de la France, la Suisse, c'est ce paysage du quotidien si paisible qui se retrouve exposé subitement par cette force de frappe, parce que la foudre ça bat quand même à la vitesse de la lumière, il y a quelque chose qui est complètement déréglé par rapport au quotidien, par rapport à l'ordre chronologique des choses et la foudre vient s'abattre. Voilà. L'homme face à la foudre n'est plus du tout maître de la situation et c'est ainsi à chaque fois. Et c'est ce qui me plaît vraiment dans ce phénomène, quoi. On ne sait pas où la foudre va s'abattre. Elle a un côté destructeur, imprévisible, effrayante et en même temps esthétique. Et tout ça s'est réuni. Et à chaque fois que je vois un impact, un coup de foudre s'abat sur un plan d'eau, sur le sol, sur un champ ou dans une montagne, ça, c'est à chaque fois vraiment un moment unique. Et la rencontre avec Richard vient d'une journée orageuse, des orages stationnaires très, très forts sur le Haut-Jura, qui s'est abattu entre la vallée de Joux et puis donc la région des Rousses. Ce jour-là, je devais être sur le col de la Givrine ou le Noirmont, il me semble, donc pas très loin de ce fameux orage où, heureusement ou malheureusement, Richard a subi les conséquences de la foudre. Pour certaines personnes foudroyées, on sait tous qu'il y a eu des effets totalement positifs. Lorsqu'on est touché par la foudre, je pense qu'on reçoit des dons après.
Après avoir été foudroyé, j'ai un don pour soulever les brûlures, toutes les brûlures, tout ce qui est le mot flamme. Et ça m'a permis de pouvoir soulager et aider aux personnes qui se brûlent comme ça. C'est comme ça, c'est en espace de peu de temps, j'ai une main que je mets pour soulager et ça vient du froid tout de suite. Et ça, et la brûlure s'arrête automatiquement.
Une dépression est un enroulement de l'air chaud autour de l'air froid. Les canaux de foudre, ces ramifications chargent l'espace. Les ions accumulés au-dessus du sol le rendent électrique. C'est une perturbation orageuse. La majorité des perturbations orageuses prennent naissance autour de zones de conflit. Albert Rochette est agriculteur. Il a été foudroyé le 18 mai 1996, dans la nature, à Sainte-Eulalie dans le Cantal. Là, il a perdu un ami. Il vit depuis avec la pensée constante de la foudre. Elle lui a fait voir ses créatures, celles que moi je vois sous tant de formes, à chaque fois que je la rencontre.
Je m'appelle Albert Rochette. Cela se passe à Sainte-Eulalie, dans le Cantal. C'était le 18 mai 1996, un samedi. Nous allions avec mon copain, on allait chercher des animaux pour traire. Et nous sommes partis tous les deux pour passer entre deux orages. Nous étions là, il y a eu un premier coup de tonnerre. Après l'éclair, j'ai compté 4-5 secondes. Avant le tonnerre. C'est encore un peu loin. Le deuxième coup, on n'a pas entendu. On n'a rien vu puisqu'on a été tous les deux terrassés. Jean-Pierre a été tué. Et il me semble que je n'ai rien vu tomber. Et moi, j'ai ressenti à ce moment-là une grosse masse sur les épaules et je suis tombé évanoui. Et je ne sais pas combien je suis resté couché, puisque quand on nous a retrouvés, je suis resté une demi-heure dans le coma. Lorsque je me suis réveillé, j'étais très essoufflé et j'avais envie de partir de là où je venais. De là où je venais, j'étais couché sur du foin très fin, j'étais bien chaud, je voyais un tunnel avec des ombres blanches qui tournaient autour de moi. Au réveil, j'étais dans l'eau. J'avais froid. Il pleuvait. Les pompiers m'ont emporté dans l'ambulance. J'étais complètement tétanisé. C'est ma casquette, toute déchiquetée. J'avais un rond là, derrière la tête, là où visiblement il n'y avait plus de cheveux. Deux brûlures qui me descendaient comme ça, des épaules, le long des jambes. Les bottes, j'avais des bottes toutes neuves. Elles étaient toutes les deux éclatées, ouvertes des deux côtés. La foudre est tombée derrière ma tête et a suivi les deux fermetures éclair de ma veste et ressortie par le bas. C'est très présent. Tous les jours, j'ai retracé ça. J'ai toujours peur de l'orage, mais pas plus qu'avant. 13 ans après, je peux dire que je n'ai pas passé une seule journée sans retracer ces moments-là, sans les revivre en fait. Tous les jours, j'ai retracé ça. Encore aujourd'hui, 13 ans après, je m'étonne d'être vivant encore. Et ça, c'est quelque chose, parce que c'est très présent. Je ne comprends pas pourquoi. Comment se fait-il que Jean-Pierre a été tué et que moi, je... Alors, bon, les explications qu'on a pu me donner, c'est que j'avais une tenue vestimentaire différente. Mais bon, c'est pas convaincant. Et je crois que, la foudre, c'est encore mystérieux. C'est comme si j'avais rêvé, en fait. J'étais donc couché sur une meule de foin. Mais ça, je m'en souviens très bien. Je couchais sur une meule de foin avec dans une bulle en coton. C'était blanc. C'était une espèce de tunnel où il y avait des ombres qui se balançaient, toutes transparentes quasiment. Des ombres sans visage, sans agréable. Je sais pas, j'étais très chaud, très bien, hein, mais alors merveilleusement bien. J'ai jamais ressenti de moment aussi, comme dans un rêve en fait, dans un rêve. Ma vie a basculé, c'est le 18 mai 96, c'est pour moi une référence. Il y a l'avant, il y a l'après, et au niveau de mon travail, au niveau de tout. D'abord, physiquement, j'ai été horriblement fatigué, ça a été très dur pour retravailler après. Mais j'avais plus personne pour travailler, donc j'ai repris le travail assez rapidement, mais très fatigué, et j'ai beaucoup souffert d'une grosse fatigue. Et j'ai eu le tympan crevé. J'étais très essoufflé. On m'a dit aussi que la fatigue, en moi, c'était l'équivalent de 3 tours du monde, à pied. C'est les médecins. Les médecins, quand je suis arrivé en réanimation à l'hôpital d'Aurillac, on m'a pris pour un miraculé. On m'a dit, vous êtes un miraculé, et je pense qu'il est très difficile de mesurer l'intensité, le voltage. Mais j'ai rencontré le chef du département foudre du CNRS, qui m'a dit que c'était toute la production EDF de France mais qui avait duré, un millième de seconde sans doute. Mais c'est l'équivalent de toute la production EDF. Hein. Voilà ce qu'il m'avait dit. J'avais besoin de le raconter, en fait. J'avais besoin de faire partager, d'essayer de faire partager cette expérience à d'autres. Lorsque on parle de la foudre avec les gens, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui changeait de conversation. Je trouve que les gens sont très avides de mon histoire. Parce que quelque part, elle ne m'a pas rendu célèbre. Célèbre entre guillemets, évidemment, mais peut-être.
L'état cristallin est un état particulier qui se produit. Lorsqu'ayant passé plusieurs phases d'endormissement au volant, je me retrouve plongé dans un monde totalement subjectif et onirique tout en conduisant. C'est une incursion du rêve dans le monde en veille alors que le corps est porté très au-delà des limites conventionnelles de résistance au sommeil. Je l'ai nommé ainsi en raison de la particularité des visions dont la caractéristique principale est l'aspect hyper-réaliste, froid, presque glacé des images. Avant d'y parvenir, il est nécessaire que je sois assailli par 3 ou 4 phases d'endormissement au volant. Phase 1. Je m'endors légèrement. Je résiste, ce qui produit une vague de déformation visuelle, particulièrement au niveau des arbres éclairés par les phares. Les sacs poubelles au bord des routes, ainsi que les arbres en pot et les panneaux, se transforment en autostoppeuses ou en personnages singuliers. Phase 2. Après une phase de réveil, nouvel endormissement, plus pénétrant, accompagné d'une vague d'hallucinations. Apparition d'animaux, de voitures inexistantes, de lapins géants, de groupes de personnes. Des figures se dessinent dans les rochers et des hallucinations auditives commencent à se manifester. Phase 3. Il arrive que des voix familières m'invitent à me reposer ou me fassent changer de direction. Je me sens tout à coup extrêmement lucide. Roland Bardel est le cantonnier de Marcenat dans le Cantal. Il a été foudroyé en 1991 dans un buron, une maison où l'on met le fromage. Son frère a été tué sur le coup. Ici au village, tout le monde l'appelle Roulette.
Je m'appelle Roland Bardet. C'est en 91, c'est arrivé. L'orage est tombé à côté du bureau. Ça a tué mon frère. Il était à côté de moi. J'ai essayé de le faire revenir, mais il était foudroyé. Après, les pompiers sont venus, le docteur, et puis il n'y a rien eu à faire, il était mort. Il était vieux dans l'orage. Hein. La poudre, elle a coupé le pilier au fond de la cabane, en deux. Le feu est passé. C'est une clôture, la poudre, elle a coupé le... des fils de fer comme une paire de tenailles. J'ai été blessé à la joue droite. Le docteur est venu. Il m'a piqué avec les cuisses antérieures. Ah, mais je peux de la foutre maintenant. Moi, je ne sors plus. Quand il fait orage, je reste à la maison. Paysan, moi. Je me louais dans les fermes. Je travaillais dans les fermes, moi, après. Il n'y a que ce temps que j'étais avec mon frère. J'étais avec mon frère, avec l'aîné, quoi. J'étais allé avec lui, je restais avec lui. À la mairie de Marcenat, j'étais cantonnier. Avec les gars qui travaillaient à la commune, quoi. Je restais 3 ans. C'est la retraite, j'ai 71 ans, alors. En 91, c'est arrivé. C'est un moment, déjà. Donc on s'est arrivé, on allait traire, on allait entrer. Et l'orage est tombé. Deux orages. Le premier, il n'a rien fait. Le deuxième, c'est tombé, ça a tué mon frère juste entre les portes du bureau. Et moi, j'étais à côté. Moi, ça m'a brûlé dans tout ce côté-là. Et moi, on a vu la foudre qui passait, l'éclair, et puis c'est tout, moi. Et mon frère est tombé à côté de moi. Et ça lui a brûlé, ça lui a fait comme une couronne. Ça l'a tué net, ça l'a électrocuté. Et puis après, mon neveu est descendu appeler les pompiers, le docteur et tout, mais c'était fini, il était mort. Ça descendait mon frère à côté de moi. On touchait les coudes d'abord. Ça aurait pu me tuer moi aussi, tous les deux. Hein. Même tous les trois avec mon neveu, c'est pareil, hein. Ah oui.
Je m'appelle Bardel Jean-Pierre, je suis le neveu de Bardel Roland. Et ça a commencé, c'est un vendredi, 28 mai, je crois.
91.
Ouais. À 14h de l'après-midi, on est parti à la traite. Mes deux oncles, ils ont monté le tracteur. Et moi, je montais à pied, à côté. Et c'était clair. Alors, tant qu'ils montaient avec le tracteur, moi, je suis passé au devant, j'ai ramassé les vaches dans le parc. Et les veaux, ils étaient séparés, alors je les ai rentrés dans leur petit parc aussi, comme on traisait à la main. Et dès qu'ils sont arrivés, ça s'est mis à couvert et c'est tombé des grosses gouttes à seau. Alors on s'est rentrés au cabanon. Au cabanon. Et on attendait que ça passe. Et j'ai fait peut-être 15 mètres. Ça en a foutu un coup de tonnerre. Il y avait les barbelés à 20 mètres du bureau. Ça a coupé le barbelé. Et peut-être 2 ou 3 secondes après, ça en a foutu un grand coup de tonnerre. Je suis retourné. J'ai vu mon oncle partir en arrière. Et une boule de feu au fond. Ça a charpillé toutes les planches au fond. Et j'ai vu mon oncle tomber en arrière. Il n'a pas crié ni rien. Alors j'ai été vite auprès de lui. J'ai quitté ma veste. Je l'ai enlevé du courant d'air. Et j'ai mis ma veste sur la tête. Et j'ai fait le bouche à bouche. Il fallait faire. Mais il était décédé, foudroyé. Et après, je suis descendu juste là où j'habitais. Pour avertir le médecin et les pompiers. Et on est monté là-haut. Et ils ont fait tout le nécessaire. Et était décédé. Voilà. Une boule de feu, j'ai vu. Une boule de feu rouge. J'ai vu. Un éclat, j'ai vu. Et j'ai vu mon oncle au milieu de l'éclat. Et le fond du bureau était rouge. Et ça avait charpillé les planches. Et ça les a projetées à 150 mètres, 200 mètres, les charpilles. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et quand j'ai vu mon oncle, comme ça. Mais voilà. Ça m'a fait un courant d'air dans le dos. Si j'étais resté peut-être deux minutes de plus, peut-être c'était moi. J'ai eu le bon Dieu avec moi, comme on dit. Là où je travaille, quand il fait orage, on évite de rester dehors. J'ai peur. Ça me fait un flash. Quand il fait orage, je repense des fois, pourtant il y a longtemps, mais ça revient. Je vois mon oncle toujours en train de faire la cigarette avec les vésupus qu'il a émis, tomber en arrière et il a lâché la cigarette. Il n'a pas crié ni rien. C'est venu en 10 minutes, c'est venu. Quand il y a eu le bruit, je suis retourné, j'ai vu la boule de feu derrière moi. Et j'ai senti le courant d'air derrière moi. J'avais 16 ans, j'en ai 34. J'avais pas été à l'école ce jour-là, cette semaine-là. J'avais été malade. Et en fin de semaine, ça allait mieux. J'allais aider à mes oncles. Et c'est arrivé. J'ai eu un miracle avec moi. J'étais beaucoup choqué.
C'est la première fois que je vois un foudroyé comme moi, quoi, en fait. Voilà.
C'est sûr. Et moi aussi. C'est sûr.
On l'a échappé belle, en fait.
Ah oui, on l'a échappé belle, j'ai échappé belle, moi, oui. Et mon neveu aussi, il avait été à côté de lui.
Il était quelle heure quand ça vous est arrivé?
Vers les 4 heures le soir, quand on va traire, quand on allait traire.
D'accord.
4 heures du soir.
Et est-ce que vous le revivez, ce moment-là, souvent?
Si, des fois, j'y pense. Oui. J'y pense que mon frère s'est fait tuer là-haut.
Oui.
Mais j'y pense, hein, c'est sûr. Ah oui. Ça, j'y penserai tout le temps, hein, toute ma vie. Ben oui.
Un guerrier vit avec la mort à ses côtés. La proximité avec la mort donne à ma vie cette intensité vibrante. Être amoureux, baiser, avoir la conscience extrême de notre finitude et la transformer en énergie. Nous sommes des vivants. Étonnant d'être encore en vie, c'est un grand mystère. Qu'est-ce qui nous protège ? Florence Lancial a été foudroyée le 15 août 2001 à Ourtin-Plage après une balade sur la dune du Pila avec son amie. Elle était danseuse. La foudre l'a rendue paraplégique, mais elle est toujours danseuse. Elle donne aujourd'hui des cours de danse à des personnes handicapées et valides depuis son fauteuil roulant sur Marignane et le bassin Aixois.
Je m'appelle Florence Lancial. J'ai 28 ans. Je suis danseuse. Il paraît que je suis une miraculée. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 15 août 2001, je suis partie en vacances avec l'homme de ma vie d'alors, Laurent. Je voulais voir la mer. Nous nous sommes arrêtés à la première plage que nous avons trouvée. J'avais enlevé mes chaussures pour sentir le sable sous mes pieds. J'adore cette sensation. Quand le sable s'agrippe à mes orteils. Nous avons marché un bon moment après un endroit où dormir. Rien. Nous avons fini par nous décider à dormir dans la voiture. Nous nous sommes tenus la main pour nous endormir sous les couvertures. Je savais que Laurent n'était pas tranquille. Il ne dormait pas vraiment. Nous sommes repartis. Après, je ne sais plus ce que l'on a fait. Je me suis réveillée avec mes parents de chaque côté de moi, avec des tuyaux dans le nez. Je me suis retrouvée au service des grands brûlés. Je ne sais plus qui m'a raconté l'histoire en premier, mais je sais que ma famille venait me voir à tour de rôle et me parlait. Mais je ne pouvais pas parler. Je ne comprenais rien. Toutes les personnes pleuraient à chaque fois qu'elles venaient. Je ne pouvais pas bouger. Et au fur et à mesure qu'on me répétait ce qui était arrivé, j'ai fini par comprendre. Après la journée à la dune du Pila, en fin d'après-midi, Laurent et moi avons rejoint ma sœur, mon beau-frère et ma filleule. Ils avaient loué un emplacement dans un terrain de camping à Ourtin-Plage. Nous avons apparemment passé la nuit avec eux dans leur tente igloo. Le lendemain, nous sommes allés à la plage et au retour, c'est là que tout est arrivé. Un orage a éclaté et la foudre est tombée du ciel. Selon les gens du camping, il y aurait eu 3 boules de feu. 2 d'entre elles ont été attirées par un arbre qui était à environ 4 mètres de nous. La 3e est arrivée droit dessus. Elle m'est rentrée dans le corps par l'intermédiaire de ma chaîne en argent qui était autour de mon cou et qui tenait un petit pendentif en cœur où était inscrit « Je t'aime » que Laurent m'avait offert à mon 17e anniversaire. La foudre a pénétré mon cou en explosant la chaîne et en me brûlant la peau. Elle a traversé mon buste et est ressortie par le pli de l'aine droit. À tous ces endroits, ma peau a été brûlée au second degré. J'étais sur une chaise en plastique. Je tenais ma filleule Elina sur mes genoux. Son dos touchait mon flanc droit. Nous avons toutes les deux été choquées et nous avons perdu connaissance. La foudre a touché l'arbre, l'a traversé et brûlé de tout son long jusqu'aux racines, sous terre. Malheureusement, les racines allaient jusqu'à notre campement et les radiations de la foudre ont touché tout le monde. Ma sœur était assise sur une chaise comme la mienne. Elle, par contre, s'est sentie scotchée sur sa chaise. Elle avait les jambes tétanisées. Elle m'a regardée et a compris que j'avais perdu connaissance. Elle m'a secouée et a vu mes yeux complètement retournés. Elle m'a appelée, mais aucune réponse. Il y avait là un pompier en vacances. Il m'a allongée sur le sol et a vu que mon cœur ne battait plus. Un ou deux hommes sont venus l'aider et ils m'ont réanimée. Ils m'ont déchiré le haut du maillot de bain. Ils m'ont commencé un massage cardiaque et le bouche à bouche. Au bout de 15 à 20 minutes, j'ai redonné signe de vie. Les secours sont arrivés. Ils m'ont hélicoportée sur le toit du CHU. Les autres ont été transportés par ambulance à l'hôpital. C'est là que je me suis réveillée 4 jours après. Les médecins m'avaient droguée pour ne pas que je souffre. Ils ne savaient pas comment je serais au réveil. Je me suis réveillée avec des brûlures sur le corps et une paralysie des membres inférieurs. Les médecins semblaient stupéfaits. Tous m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas comment j'avais pu survivre à une chose pareille. Il paraît que j'aurais pris une décharge électrique d'environ 300 000 volts. Imaginez quand vous mettez les doigts dans une prise, vous prenez 220 volts. En fait, je ne suis pas normale. Le cas est extraordinaire. Les médecins n'ont jamais vu quelqu'un ayant reçu la foudre et être en vie. Un paraplégique, normalement, n'a pas de sensibilité. Moi, je l'ai. Ça doit être horrible de ne pas sentir une partie de son corps. Un paraplégique, normalement, ne gère pas ses sphincters, alors que moi, si. C'est-à-dire que je contrôle ma vessie. Un paraplégique, normalement, lorsqu'il est touché à un endroit de la colonne, il est bloqué à partir de ce point jusqu'en bas. Moi, je bouge les orteils. Je suis en vie. Je suis aimée. Je danse.
Ce dont je me souviens, moi, Virginie, ta sœur, on était assis sur des chaises pliantes bleues en plastique, juste à côté de la tente bleue et jaune. Toi, tu avais Elina dans tes bras, qui dormait. On formait pratiquement un carré. Il pleuvait des cordes et ça grondait. Tout a résonné jusque dans notre corps. Je suis sûre de n'avoir jamais entendu un orage tonner aussi fort. Et pourtant, moi, j'adorais les orages auparavant. Et ça ne me faisait pas peur, mais là, il m'impressionnait. Il craquait au-dessus de nos têtes. Et puis il y eut comme une boule de feu qui arriva juste au milieu de nous. Un gros flash aveuglant. Et nous avons tous crié. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai hurlé. Je te voyais inanimé, la tête basculée en arrière, et le bras gauche tombant, les yeux sans expression. Elina était dans le même état, son corps formait un arc avec les membres tout relâchés. Moi, je ne sentais plus mes jambes. Cloîtrée sur mon siège, j'essayais tant bien que mal de sentir ton pouls et j'hurlais en même temps au secours. Ils t'ont allongé par terre, parallèlement à la tente, sous la pluie, et ont commencé le bouche à bouche et le massage cardiaque. La suite, tu la connais. Ça fait partie de ma vie, ça revient et ça sera toujours là. De plus, du fait qu'il y a une trace chez Flo. Chez ma sœur, quoi. C'est vrai que ma fille, elle a pratiquement plus de séquelles. Elle a une petite cicatrice au niveau du poignet. Mais du fait qu'il y a toujours ce fauteuil, ça restera ancré en nous jusqu'à la fin de nos vies, quoi. Après, le fait que quand il y a des orages, oui, c'est sûr que j'ai toujours plus d'appréhension qu'avant. J'avais besoin de le raconter et je l'ai raconté, pas des milliers de fois, mais presque, quoi.
Pendant 5-6 ans après l'accident, ce qui est étonnant étant donné que je ne me rappelle pas de cet accident, j'avais quand même comme des crises de, un peu d'hystérie dès qu'il y avait un orage. Je hurlais jusqu'à ce que l'orage s'arrête. Je ne dormais pas la nuit quand ça se passait la nuit. Enfin bon, c'était assez. Ma réaction était assez violente par moments. Maintenant, ça commence à se calmer.
Je m'appelle Sébastien, je suis pompier militaire sur la base aérienne 106, juste à côté. Là. C'était l'affolement général, j'ai demandé ce qui se passait et tout. Puis j'ai pas demandé une, je suis parti, tête baissée, je suis parti, je savais même pas où c'était, j'ai vu que ça s'agitait, je suis parti, tête baissée. Il y avait, t'étais au sol, il y avait deux autres personnes au sol, mais conscientes, brûlées, des petites brûlures. Puis il y avait une personne qui faisait commencer à te masser, ce qu'on appelle le massage cardiaque. Il y avait du monde autour, et puis après j'ai fait la suite avec lui, l'homme massé, et moi je faisais le bouche à bouche. T'es parti en hélicoptère après, et au bout de, il me semble que c'était 45 minutes, j'ai demandé après 45 minutes de massage cardiaque, de réanimation. Et c'est moi, mon connaissance personnelle, c'est très rare qu'au bout de 45 minutes, c'est bien, c'est tant mieux. Après, moi, une fois que les pompiers sont arrivés, je me suis occupé de il y avait ta sœur,
ma sœur, oui.
qui était consciente, qui avait quelques brûlures, douleurs au poumon, à respirer, tout ça. On s'est juste aperçu après que sur l'arme, c'était tombé sur l'arme et c'était passé directement avec un fil à linge sur la tente. Et après, c'est là, au niveau du sol, qu'ils ont apparemment pris tout le choc électrique et Florence qui a pris le maximum. Mais apparemment, son beau-frère m'a expliqué après qu'ils étaient tous projetés à 2-3 mètres.
Tout ça, ça passe. J'ai pas l'impression que ça fait partie de ma vie. Parce que, étant donné que j'ai tout effacé dans ma mémoire, je m'aperçois que les gens autour, ils ont des souvenirs de choses où je suis la principale, enfin, l'actrice principale de la scène, alors que. Voilà, il me raconte des choses, je sais même pas de quoi il me parle en fin de compte, et c'est impressionnant parce que voilà, tu dis que tu y repenses assez souvent.
On y pense. Et moi j'étais ravi que, à part après quand ta mère m'a dit qu'il n'y a plus l'usage des jambes, mais après elle m'a expliqué plein de choses, la danse, le saut en parachute, le copilote. Non, tant mieux.
En tout cas, moi, ce dont je me souviens, donc c'est à mon réveil, c'est que les médecins ont été très très bluffés des premiers soins que j'ai eus sur place. Donc c'est pour ça que vraiment je dois te dire un grand grand merci, parce que être en fauteuil, on s'en fiche, c'est qu'un détail, comme je dis, au lieu de marcher, je roule, et alors on s'en fiche. Mais là où vous m'avez vraiment sauvée, c'est que vous avez tout fait pour que mon cerveau soit oxygéné et que je n'ai pas de séquelles cérébrales. Et ça, c'est génial. Donc, tu fais vraiment aussi partie des piliers qui m'ont forcé et qui m'ont permis d'aller jusqu'au bout. Et voilà, je pense que je ne te serai jamais assez reconnaissante. Tu as fait un super boulot et je te remercie vraiment du fond du cœur. C'est vrai que cet accident, même si je ne m'en souviens pas du tout, a complètement transformé ma vie. Mais ce qui est bizarre à dire, je dirais pour tous ceux qui vont m'écouter, c'est que le fait d'être paraplégique, comme ils ont décidé de me nommer dans les dossiers médicaux, c'est que ça a été que du bénéfice et du positif pour ma vie d'aujourd'hui, qui est, je pense, beaucoup plus heureuse qu'auparavant. Aujourd'hui, je fais des choses et je vis une vie extraordinaire. J'ai un homme qui m'aime à la maison. Je travaille dans le monde audiovisuel où je fais principalement du montage vidéo. Et mon deuxième travail, qui est celui que j'ai au fond des tripes depuis que je suis toute petite, et cet accident m'a permis de le réaliser, c'est que je suis professeure de danse. Et ce qui a peut-être changé par rapport à ce que je voulais au départ, c'est que ma spécialité est de donner des cours de danse à des personnes de tous les horizons, c'est-à-dire des personnes valides comme aux personnes handicapées. La différence, c'est vrai, c'est que maintenant je danse avec mon fauteuil, puisque de toute façon le fauteuil fait partie de moi, c'est mon moyen de locomotion. Mais c'est aussi, et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que ce n'est pas un obstacle à la danse, bien au contraire, c'est un accessoire de danse. Il faut s'imaginer comme des personnes valides qui dansent avec un chapeau ou une canne, un parapluie, c'est un accessoire. Aujourd'hui, je vois la vie différemment, dans le sens où j'ai compris que, d'après les médecins, je ne devais pas survivre à cet accident. Donc pour moi, j'ai une seconde chance dans la vie. Depuis, j'ai fait des tas de choses, type soit en parachute, soit à l'élastique. J'ai fait du rallye automobile. Et une chose où j'étais vraiment, vraiment loin de l'imaginer, j'ai été sportive de haut niveau en natation. Et j'ai terminé ma carrière sur une Olympiade où j'ai participé aux Jeux paralympiques de Pékin, où j'ai quand même fini 5e. Donc j'en suis vraiment très, très contente et très fière parce que je me dis quand même que c'est la meilleure compétition mondiale. Et voilà. Jamais je me lève le matin en me disant « Oh, c'est vrai, je suis une foudroyée qui a survécu. Oui, je suis une foudroyée qui, suite à cet accident, est devenue paraplégique. » C'est le dernier de mes soucis où j'y pense vraiment pas du tout, quoi.
Ne reste pas dehors, surveille les nuages.
Quand vient l'orage.
Veille les nuages.
Sinon la foudre vient à toi.
Jamais sous un arbre.
Quand vient l'orage.
Ne t'abrite pas sous un
arbre.
Quand
vient l'orage.
Jamais dans une grotte ou au creux d'une faille.
Quand vient l'orage. Sinon la foudre vient à toi.
Ne porte rien sur toi.
Quand vient l'orage.
Pas de métal au-dessus de ta tête.
Quand vient l'orage.
Ne porte rien sur toi. Pas de métal pointé au-dessus de toi sous l'orage.
Sinon la foudre vient à toi.
Reste seul.
Quand vient l'orage.
Écarte-toi de tous.
Quand vient l'orage.
Au moins 3 mètres entre l'autre et toi.
Quand vient l'orage.
Sinon la foudre vient à toi. Éloigne-toi des pylônes, poteaux, clôtures autour de toi.
Quand vient l'orage.
Éloigne-toi de tout.
Quand vient l'orage. Sinon la foudre vient à toi.
Éloigne-toi des pics rocheux.
Quand vient l'orage.
Ne grimpe pas au sommet.
Quand vient l'orage.
Quitte les crêtes.
Quand vient l'orage. Sinon la foudre vient à toi.
Quitte ton bateau.
Quand vient l'orage.
Gagne la rive, loin du mât.
Quand vient l'orage.
Sinon la foudre vient à toi. Reste sans fil.
Quand vient l'orage.
N'appelle que toi.
Sinon la foudre vient à toi.
Replie tes jambes.
Quand vient l'orage.
Ne marche pas à grandes enjambées.
Quand vient l'orage.
Évite la tension de pas.
Quand vient l'orage.
Sinon la foudre vient à toi. Mets-toi en boule, enroule-toi.
Quand vient l'orage.
Enroule-toi, isole-toi de tout, roule en toi.
Quand vient l'orage.
Sinon la foudre vient sur toi.
Mais j'attends déjà que revienne la nuit,
scellée dans l'espace.
La même nuit, s'il se peut.
C'était la face A de l'atelier de création radiophonique, Foudroyer, un essai radiophonique de Manuela Morgan. Voix de balle, Rodolphe Burger, avec les récits de Samia Faf, Richard Arbé, Nicolas Gascard, Albert Rochette, Roland Bardel, Jean-Pierre Bardel, Florence Lancial, Virginie Germont et Sébastien Trinel d'Aragon. Archivina, Martine Auger. Musique et design sonore, Philippe Langlois. Enregistrement des voix, Giovanni Lagnado et Guillaume Ledu. Mixage, Bernard Laniel. Une réalisation de Marie-Laure Ciboulet. On reprend sa respiration et les esprits qui vont avec. On ouvre bien grand les oreilles pour atteindre la face B de l'atelier avec un nouveau portrait dans notre série S'entretenir qui tâche de dessiner le contour des diversités insaisissables de notre pays.
Vers Pont du Gard, place de la Madone, lundi 16 novembre 2009, 11h30.
Je crois que notre avis, dans tous les trucs, on a une raison pour, comment dire, on passe sur un chemin qu'on est, obligé de passer, on va dire. Et quand on meurt, c'est un peu côté destin aussi. On meurt quand on en a besoin de mourir. Même le truc accident, ça arrive parce qu'il y a une raison pour. Déjà, mon père, et surtout mon père, il était très peur des fantômes. Donc, on est élevé là-dedans. C'était naturel qu'ils sont là, on va dire. Mais j'ai toujours eu cette côté, un sentiment. Je sais quand je ne suis pas seule. Je sais aussi, dans cette maison, il y a plein de petits fantômes. Mais c'est normal. Voilà. J'ai un côté relation. C'est normal. C'est, comment dire, une vieille bâtisse pareille. Donc, je sais aussi qu'on a des voyantes qui sont passées. Et j'ai, comment dire, ça m'intéresse beaucoup. Je sais qu'il y a une petite fille, une femme. Je sais qu'il y a des fantômes dans, comment dire, des esprits dans plusieurs chambres. Mais je sais aussi les sentir. Nous, les filles, au terme qu'on est comme des Yougoslaves gitanes, j'ai mes parents qui sont Yougoslaves. On est quand même élevés très modernes. Je veux dire, on n'a pas un caravan avec ma famille où on va à gauche, à droite. On a une maison en Yougoslavie. Je me souviens, il y avait un côté aussi sur mon père que dans notre petit village, il y avait des vrais gitanes. Mais on n'avait pas le droit de parler avec eux parce qu'on n'était pas comme eux non plus. Donc pour nous, c'était quand même très partagé. C'est qu'on était des gitanes modernes. Et que, surtout, mon père, il ne voulait pas que si on se marie dans des familles gitanes, on savait aussi que le seul but qu'on a, c'est d'aller travailler, faire de l'argent, faire des enfants, comme des esclaves, on va dire un peu que nous, on avait un très fort caractère, toutes les filles, que ça, on n'acceptera jamais. Je voulais faire photographe. Journaliste. Je voulais faire... comment ça s'appelle ? C'est garagiste, ça ? Quand on répare les voitures ? Oui. Et après, 17 ans, je rêvais de faire le métier que je fais maintenant. Je commençais sur une petite école dans ma petit village, au Danemark. Et je voulais commencer cette côté journalistique, photographe. Et cette côté-là, il n'était pas mis en place. C'était une école toute neuve qui vient commencer. Donc, ils m'ont demandé, le directeur, si j'ai pas envie de commencer en cuisine, dans un petit cantine qui fait à manger pour des handicapés. Je dis bon, d'accord, je l'ai fait quelques temps, pas de souci. Et j'avais du mal à suivre des recettes. Je trouvais ça ennuyeux. Donc, je fais un peu ça, un peu ça, un peu ça. Je mélangeais un peu. Ils ont bien aimé les gens. Et donc, elle qui s'occupe, les responsables de la cuisine, elle m'avait demandé, elle trouve que j'étais très créative. Donc, elle m'a demandé si je n'avais pas envie de faire un stage dans un restaurant gastronomique. Que je n'avais aucune idée qu'est-ce que c'était. J'étais, c'est quoi, 16 ans, 17 ans. Il y avait mon mari qui a déjà fait un stage dans un restaurant. On a passé un jour en voiture. Et il me dit, tiens, ça, c'est le meilleur restaurant de le coin. J'ai déjà fait un stage là-dedans. Et je dis, bah, tiens, c'est là où je vais faire mon stage. J'étais entrée là-dedans pendant 2 semaines. Et ça, ça m'a donné des grosses claques de voir une cuisine que je n'ai jamais su que ça existait. Moi, je suis élevée avec mes parents yougoslaves. On n'a pas une culture de manger, déjà. Je veux dire, on mange pour se nourrir, c'est tout. On n'est pas, comment dire, ça ne m'a jamais rêvé à la tête que c'était possible de faire quelque chose pareil. Donc, j'ai adoré. J'ai accroché très, très vite. Et je dis, bon, je retournais à la cantine et ça, c'était impossible. Je lui dis, écoute, là, pour moi, j'adore la cuisine, mais maintenant, je sais qu'est-ce que ça veut dire, la cuisine, parce que ce que vous faites, ce n'est pas la cuisine. Et donc, je retournais chez mon chef pour demander est-ce que je pouvais éventuellement faire un vrai stage. Il me dit, écoute, j'ai une liste d'attente, ce n'est pas possible, machin. Je dis, bon, est-ce que je peux venir en volonté, comment dire, juste pour regarder ce qui se passe, gratuite. Et il a bien aimé mon côté courageux, on dit ça. Et donc, finalement, il m'a proposé d'être son apprenti. Et j'ai fait les 4 ans chez lui. Et c'était les plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ma vie. Ça, c'est clair et net. Vraiment. Si je pouvais le refaire, je le refais. Cette maison, quand j'ai pris cette maison, c'est mon premier rêve, c'est mon premier établissement. C'est mon bébé, quoi. Mais vraiment, vraiment. Ah, ça, c'est un souvenir que... Et comment dire, c'est aussi une journée que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Quand j'étais récompensée grande demain dans Golmio, c'était une journée splendide. C'est la directrice qui m'appelait. Elle m'a juste dit qu'on a sélectionné 6 et vous êtes un des 6 grande demain. Et je commence à pleurer. Je pleurais direct. Non, bah, c'est qu'après, quand elle a dit « Oui, on a goûté votre cuisine et on sait un peu que vous travaillez dur et que ça... » Et là, elle me fait pleurer, Claire. Donc, c'était... Non, c'était énorme. Énorme, énorme. Franchement, je me sens plus chez moi ici que je me sens au Danemark. Ça, c'est fort, je trouve. Là, ça fait la 8e année que je suis là. Parce que c'est plus intéressant à cuisiner pour des Français que les Danois. Mais bon, je crois que j'ai trouvé entre les deux quelque chose de bien et ça sera ici. Oui, oui. München, Lisa, 34 ans. Et je suis cuisinière.
C'était la face B de l'atelier de création radiophonique, S'entretenir, épisode 21. Par Vladimir Léon, mixage Olivier Dupré, réalisation Lionel Quentin. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission, nous écrire, consulter et participer au blog de l'atelier sur franceculture.com. Nouvelle apparition de l'atelier dimanche prochain avec la rediffusion d'un atelier de Valère Novarina. Voilà, c'est tout, c'est fini. Fin de la fin de l'atelier, une émission proposée par Philippe Langlois et Franck Smith. Mais rassurez-vous, Regardez-moi, j'arrive.